liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 23, année 2015. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, petit sommaire cette semaine, Manu.
Oui, il faut croire que les journalistes étaient un peu tranquilles. Ça n'empêche qu'il y a des choses intéressantes, n'est-ce pas Nicolas? Donc il y a des choses parce qu'on va parler d'un hyper prudent, donc soi-disant. Des documents secrets qui ont réfuté à propos du TISA, Paris et son architecture en mode wiki, la loi renseignement et la DISIC et les éditeurs de logiciels propriétaires. Des choses intéressantes.
Sled.fr, voici à quoi ressemble l'internet d'un hyper prudent. Une interview menée par Juliette Harrault. Alors c'est une interview d'un certain Aeris.
On t'a reconnu.
Et oups. Il semblerait que tu le connaisses, Nicolas. Tu sais qui c'est?
Oui, je sais qui c'est. Il ne veut pas se présenter. Non, sans blague, c'est un peu moi qui ai été interviewé là-dessus. Bah, je ne vais pas parler trop de moi parce que j'aime pas ça. Mais en gros, voilà, le but c'était de montrer ce que je faisais moi tous les jours dans ma vie quotidienne pour avoir de la sécurité, éviter de liker mes données et autres. Donc voilà, ça fait un peu le topo de l'intégralité de ce que je peux pratiquer.
Ça fait un peu peur quand même. C'est-à-dire que si on se met dans la peau du grand public, ça fout la trouille. Enfin, c'est quand même plein de trucs que tu mets en œuvre.
Ouais, alors après, effectivement, il y a des choses qui sont, on va dire, un peu parano, où je fais ça un peu pour le fun, puis ça m'amuse de voir jusqu'où je peux aller. Mais après, il y a certains autres morceaux, par exemple la gestion des mots de passe, ou la protection de la vie privée sur Internet, où bah, tout le monde devrait peut-être faire un effort là-dessus, parce que c'est un peu l'enfer actuellement. Et bon, effectivement, d'aller chiffrer ses disques durs, c'est pareil, c'est incontournable. Aujourd'hui, on perd son PC ou son mobile, je sais pas le nombre d'informations qu'on arrive à récupérer, donc il faudrait que les gens fassent un peu d'efforts.
Ouais, après... sans rentrer dans une logique de parano avec la NSA.
Voilà.
Quelqu'un qui veut tirer profit des gens, s'il arrive à récupérer les mots de passe, il peut, notamment d'un mail, il peut derrière récupérer tous les services, l'accès au compte bancaire et ce genre de choses. Et pareil, hein, s'il récupère des infos, un ordinateur qui est volé dans lequel il y a toutes les infos, eh ben, on est bien embêté et ça peut vraiment causer des problèmes concrets et sans être dans des questions d'espionnage.
Alors pour le coup, je trouve intéressant aussi, t'es à l'autre bout de ce qu'on fait d'habitude dans la revue de presse. Là, tu peux analyser quelqu'un qui a été interviewé, qu'est-ce que tu penses des questions qui t'ont été posées, du rendu du journaliste. Parfois, les rendus sont pas
non,
toujours
là,
ça, quoi.
Là, la journaliste, donc Juliette, qui est venue à Café Vie Privée, qui a fait un article d'ailleurs qui paraît cette semaine sur Slide aussi, respecte plutôt fidèlement ce qui a été dit par rapport à des envoyés spéciales ou autres qu'on a déjà pu croiser, où les propos sont complètement déformés. Là, ça fait plaisir de voir une journaliste qui est venue à des Cafés Vie Privée, qui était là aussi pour s'intéresser à son propre job, puisqu'elle a aussi des sources à protéger et autres, donc c'était quelqu'un de très intéressé sur le sujet, et qui a sorti un article plutôt pas mal fait.
Ars Technica, Wikileaks, release secret TISA docs, the more evil sibling of TTIP and TPP, un article de Glyn Moody. Alors, petite traduction peut-être, hein, parce que voilà, mon anglais est tellement parfait que je pense que voilà, les gens n'ont pas tout à fait compris.
En fait, ça fait suite à des révélations de Wikileaks sur l'accord TISA, donc c'est quelque chose qu'on a déjà entendu parler il y a quelques années de ça. C'est un espèce de traité un peu comme ACTA, SOPA, PIPA, enfin tous ces trucs-là. Sauf que c'est encore plus gros, parce que là, du coup, c'est aussi le traité transpacifique et transatlantique. Et Wikileaks a fuité des documents, des nouveaux documents là-dessus, comme quoi les négociations secrètes continuent entre tous les pays.
Alors, pas tous les pays, parce que justement,
il y en a qui sont plus ou moins d'accord que d'autres, mais...
Non, mais il y en a certains qui sont carrément sortis.
Et d'autres qui sont sortis.
L'image qui est en un chapeau d'article est vraiment parlante. On voit le Chinois se faire éjecter de manière assez violente. Et j'ai cru comprendre que tous les BRICS avaient été plus ou moins mis de côté. La Russie, le Brésil, ils ne sont pas inclus. Et même, c'est à se demander si ces genres d'accords, ce n'est pas un moyen pour l'Occident de poursuivre sa domination économique en garantissant qu'entre nous, tout va bien et que les autres, ils vont devoir quémander pour rentrer dans le circuit.
L'Occident élargit en gros les pays développés. Je suppose que le Japon dans l'Australie également, et effectivement. Et ça a des impacts sur le logiciel libre et l'informatique.
Bah là, en l'occurrence, c'était d'interdire la communication du logiciel libre.
La préférence même.
Les préférences, en fait, au logiciel libre. Et en fait, du coup, un État n'aurait pas le droit d'imposer l'accès au code source pour l'utilisation d'une solution, enfin, avant l'achat d'une solution.
Voilà, ou choisir, effectivement, spécifiquement un logiciel libre dans le cas d'un appel d'offres.
Donc voilà, et donc, bah, forcément, les Américains et tout ça aimeraient bien voir ça interdit, comme ça. Ça les autoriserait à vendre leur propre solution, ou effectivement, c'est du code fermé, donc on n'a pas accès et autres, et donc il serait plus compétitif si on autorisait la préférence au logiciel libre.
Alors forcément, tous les défendeurs des logiciels libres sont tout rouges, pas contents. Il semblerait que ce soit le délégué japonais, le représentant japonais qui a subrepticement, mais de toute façon, on suit pas, c'est toujours très secret, glissé ces genres de clauses-là. Il faut remarquer qu'en France, la préférence au logiciel libre, on y est presque. En Italie, ça a l'air d'être le cas, en Grande-Bretagne ça avance bien, et donc ça irait à l'encontre des mises en place actuelles sur les marchés publics, les administrations, des choses qu'on aime bien.
Donc du coup, on verra comment ça va évoluer. En tout cas, c'est intéressant que cette information est fuitée, et ça permet de faire du bruit et de faire pression pour que ce truc fasse marche arrière. On sait que ces accords, il y a toujours des trucs assez abominables qui peuvent passer là-dedans. Archimag, Wikibuilding, et si Paris se réinventait en mode wiki et open source, un article de Clémence Jost.
Donc là, Wikibuildings, en fait, c'est un peu l'extension de Wikimedia et de tout ce qui est do it yourself et Fab Lab et autres en version architecture. C'est-à-dire qu'il y a une zone dans Paris un peu à repeupler, à reconstruire. Et le but, c'est de mettre à disposition toutes les briques de base pour faire un immeuble et de l'architecture. Et puis dire aux gens, allez-y, proposez-nous des projets et on verra ce qu'on en fait.
Je crois même que c'est quasiment un quartier qui est en jeu ou un bloc d'habitation. Et justement, comme il faut le construire, c'est à eux de choisir. C'est 2870 m² de terrain constructible, quand même assez conséquent du côté de Masséna. Et donc, ils mettent en avant quelque chose qui sera open, dans le sens où c'est les gens qui vont participer.
Alors, c'est une des propositions, parce qu'évidemment, c'est des concours souvent sur les concours d'architecture. Et l'idée, c'est de mettre en place un bâtiment qui soit modifiable en fonction de l'usage qu'on en a. C'est-à-dire que ce soit pas un bâtiment qui soit complètement figé. Ils parlent d'utiliser beaucoup de bois, de telle sorte les habitants, les gens qui vont utiliser les locaux puissent effectivement agencer l'immeuble, modifier les lieux, donc se les approprier et les faire évoluer en fonction des besoins. Donc voilà, donc ça, on parle assez souvent d'architecture et d'utilisation des principes du libre dans l'architecture ces temps-ci, donc ça a l'air très à la mode. Next Impact, loi renseignement, la lutte contre la contrefaçon pourrait justifier la surveillance, un article de Marc Ress. Donc on assure le service après-vente, enfin après-vente, il n'est pas encore complètement vendu, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, les suites sur cette loi de surveillance. Et là, on voit bien que le prétexte du terrorisme est un prétexte.
Ça fallait s'y attendre. L'argument du terrorisme ne cachait que des ambitions plus vastes. Et donc là, déjà, il y a eu un premier moment de passé que les fameux intérêts économiques essentiels de la France sont devenus les intérêts tout court. Donc du coup, ça augmente le périmètre des actions.
Super vague, ouais.
Ça devient super vague, et puis du coup tout le monde se lance dans la brèche aussi. Maintenant on va combattre la contrefaçon, on va combattre l'anorexie, on va combattre tout plein de choses qui dépassent largement le cadre du terrorisme.
Quand ils disent contrefaçon, quelque part c'est juste tout ce qui est copie sur internet, copie des œuvres avec des droits d'auteur associés, et globalement c'est du contrôle.
Alors sur internet et ailleurs, il y a aussi la contrefaçon matérielle, mais on se doute qu'évidemment toute cette question du partage de fichiers, etc., va être attaquée plein bourre. Et donc plus ils vont élargir, déjà on disait que le système était pas hyper fiable, donc plus ils vont élargir les sujets d'intérêt, plus l'algorithme va ramasser tout et n'importe quoi. Et ça montre bien qu'on est vraiment dans cette logique de contrôle social, de surveillance, et qu'on est quand même très très mal parti. ZDNet, la DISIC veut améliorer la politique publique du logiciel libre, les éditeurs propriétaires grincent. Un article de Thierry Noisette.
Ah, ça fait plaisir de voir un article comme ça. Donc la DISIC, c'est un peu la DSI version administration, donc c'est le...
Au niveau du gouvernement.
Au niveau du gouvernement,
tous les services informatiques de tous les ministères.
Voilà, et donc ils ont décidé de publier ce qui s'appelle le SIL, le socle interministériel du logiciel libre.
C'est une mise à jour.
C'est une mise à jour, pour dire, pour chaque usage qu'on va avoir besoin, on a un logiciel en face et une version, et on va l'écrire dans un papier, et comme ça, ça évite à chaque administration de faire le travail d'études, d'analyses, de comparaisons et autres.
Voilà, la semaine dernière, on avait parlé du référentiel général d'interopérabilité, qui est la partie sur les fichiers, qu'est-ce qu'on utilise comme fichier, etc. Donc, ils avaient déjà sorti le format de Microsoft, qui est un faux format normé. Et donc là, c'est vraiment sur les logiciels libres. Et on s'en doutait, les éditeurs propriétaires, ils n'aiment pas trop qu'il y ait un machin qui leur dise « vous allez sortir ».
Oui, il semblerait qu'il y avait eu des appels à commentaires et que l'AFDEL, le bras armé de Microsoft et Microsoft se plaignent parce que le format d'après eux est normé, il est bien ISO et compagnie, donc il n'y a aucune raison de l'enlever, c'est moche, c'est une atteinte à leurs droits. Alors on se rappelle pour le coup qu'il y a des traités qui sont en cours de négociation et que si l'État enlevait des revenus à une entreprise, potentiellement elle pourrait l'attaquer en justice.
Effectivement, alors on se doutait que ce genre de truc allait arriver. Il ne faut pas voir l'État comme un gros monolithe, c'est la DISIC manifestement est en train de mener une politique pro-libre. Ça fait des mois qu'on voit des articles réguliers où le patron de la DISIC dit moi j'ai aucune religion, je vais prendre ce qui est efficace, etc. Mais au final on voyait quand même ce chemin se dessiner, donc on pense qu'il a dû avancer à couvert, etc. On rappelle que il y a le ministère de la Défense qui a l'accord open bar, qu'on a deux autres ministères qui sont rentrés dans la combine, et donc il faut pas s'imaginer que tout le monde va dans le même sens au niveau du gouvernement, et on va être vigilant là-dessus pour espérer que ce truc fonctionne, que ça passe, et qu'il n'y ait pas une grosse rébellion ou un lobbying très intense qui nuirait à cette démarche.
Oui, parce qu'on le rappelle, sur la première première version du CIL ou le RGI, Microsoft s'était repassé derrière et avait fait virer tout ce qui était préférence au logiciel libre et rajouter son format Office.
Ça avait fait un scandale. Un méchant scandale. Il y avait des atteintes. Ouais. On avait parlé de corruption. Ça avait touché à tous les pays, enfin pas mal de pays.
Alors c'était sur le RGI, nos références générales d'interopérabilité, puisque le CIL par définition c'est que du logiciel libre. On peut pas y faire grand chose. Mais effectivement, le référentiel général d'interopérabilité, il dit le format qu'on doit utiliser. Et dès lors qu'il n'y a pas de format Microsoft, bien du coup, on peut plus prendre de Microsoft. Même si les versions.
Il faudrait qu'ils s'alignent.
Voilà. Mais ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'ils font plus ou moins de l'ODF, mais ça marche pas bien. Enfin, comme toujours avec Microsoft, tout est fait pour que ce soit pas compatible. Enfin, interopérable, comme on dit, hein, ce mot est abominable, il est beaucoup trop long, mais il est plus précis. Et donc voilà. Donc là, c'est une étape supplémentaire. Et bon, on va voir ce que ça donne.
Là, on a fait le tour. On se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, tout le monde.
Salut.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fiévet et Nicolas Vinault.